Chapitre 14. Découverte. Inutile de vous dire quelle fut ma première pensée lorsque je me remis de mon émotion. J'avais, grâce à la vie aventureuse que j'avais menée, l'habitude de prendre une décision rapide dans les cas graves ou imprévus. « Il y a, me dis-je, deux choses à faire. Porter tout de suite du secours au sable, cacher tout à Lucille, jusqu'à ce que j'aie pu la préparer pour ce que nous allons découvrir. » Je vis Madame Finch. Elle s'était laissée tomber, inerte et sans force, sur une chaise. « Allons, lui dis-je en la secouant, levez-vous. » Elle ne remua pas et me regarda en sanglotant, éprise d'un tremblement nerveux. Ce n'était pas précisément le moment de se trouver mal. La pauvre petite Gigue cédait rapidement à l'excès de fatigue et de terreur qui l'accablait. Il fallait bien cependant la confier à quelqu'un. Je mis l'enfant sur les genoux de sa mère. Gigue résista faiblement, mais cédant bientôt à la lassitude, elle laissa tomber sa petite tête sur le sein maternel. Je demandai à Madame Finch si elle pouvait lui ôter sa blouse. L'idée de s'occuper d'un pareil détail parut réveiller Madame Finch. Elle jeta un regard sur le bébé dans son berceau et sur son roman, et la vue de ces deux objets familiers sembla la réconforter un peu. Puis, frissonnante et respirant longuement, après avoir étouffé un sanglot, elle commença à dégrafer le vêtement de l'enfant. « Cachez tous ces effets, lui dis-je, et ne dites rien de tout ceci avant mon retour. Comme vous le voyez, l'enfant n'a aucun mal. Il suffit de la calmer. Monsieur Finch est-il dans son cabinet ?» L'épouse du recteur étouffa un nouveau sanglot et me répondit affirmativement. Je laissai les trois babies, le petit, le moyen et le grand, et je m'esquivai. On ne me répondit pas quand je frappai à la porte du cabinet. Je l'ouvris donc et j'entrai. Monsieur Finch, étendu mollement dans son grand fauteuil, les feuilles blanches sur lesquelles il était censé écrire ses sermons gisant éparses à ses côtés, se leva en sursaut et me regarda de l'air d'un juste qu'on vient d'arracher au sommeil. Il recouvra instantanément toute sa dignité. « Pardon, madame, j'étais plongé dans mes méditations. Veuillez vous expliquer en termes aussi brefs que possible. » Il me montrait d'un geste majestueux la feuille de papier blanc, vierge de toute écriture, en ajoutant de sa voix de basse taille « C'est le jour, madame, où je compose mon sermon. » Je lui racontai aussi rapidement que possible ce que j'avais découvert sur la blouse de Jiggs et lui communiquai mes craintes. Il devint pâle comme un mort. Je n'ai jamais vu d'homme plus facile à la frayeur que M. Finch. « Croyez-vous qu'il y ait du danger et qu'il puisse y avoir des malfaiteurs dans la maison et dans le voisinage ?»« Je pense qu'il n'y a pas un moment à perdre et qu'il faut aller tout de suite au sable en emmenant avec nous tous ceux que nous rencontrerons. » J'ouvris la porte et j'attendis qu'il se décida. Dans sa crainte de rencontrer des malfaiteurs, il m'avait l'air de se trouver à 100 lieues de son presbytère. Mais en sa qualité de père de famille, de ministre du Saint-Évangile et de personnage important, il ne put faire autrement que de me suivre. Nous arrivâmes dans le village. M. Finch garda pour la première fois, depuis que je le connaissais, un silence absolu. Je fis aussitôt demander l'unique policeman chargé de maintenir l'ordre. Le policeman faisait sa tournée. Le médecin n'y était pas non plus. Ce n'était pas le jour où il venait. Comme on m'avait décrit l'aubergiste des Trois Croix comme un homme honnête et intelligent, j'avais l'idée de le prendre en passant devant sa maison. Cette proposition rendit à M. Finch un peu de courage, et bientôt le sentiment de sa propre importance se releva avec la rapidité du mercure d'un thermomètre plongé dans un bain chaud. « C'est précisément, s'écria-t-il, ce que j'allais vous proposer. Goodridge est, pour la classe à laquelle il appartient, un fort digne. « Emmenons-le, nous ne pourrions faire mieux. Mais calmez vos craintes, Madame Pratolung, nous sommes tous dans la main de la Providence. Et il est vraiment heureux que je me sois trouvé au presbytère. Qu'auriez-vous fait sans moi ? Allons, je vous en supplie, Madame, n'ayez pas peur. Dans le cas où nous aurions affaire à des malfaiteurs, n'ai-je pas ma canne pour vous défendre ? Et puis, voyez-vous, si je ne suis pas grand, je suis fort, je suis tout muscle pour ainsi dire. Tâtez plutôt. » Et en disant ces mots, il me tendait un pauvre petit bras chétif, à peine à moitié aussi gros que le mien. Si mon anxiété n'avait pas été si grande, j'aurais certes essayé de me moquer de lui en disant qu'avec un homme d'une force aussi herculéenne à mes côtés, je n'avais plus rien à craindre et qu'il était parfaitement inutile de déranger l'aubergiste. Je ne sais si le pasteur devina ma pensée, mais à peine étions-nous en face de l'auberge qu'il se mit à appeler Gauzerige avec une rare énergie. Celui-ci parut à la porte et sitôt qu'il sut ce dont il s'agissait, il consentit à nous suivre. « Prenez votre fusil, » lui dit M. Finch. Gauzerige obéit et nous reprîmes à la hâte notre chemin. « Votre femme ou votre fille sont-elles allées au sable aujourd'hui ? » demandai-je à l'aubergiste. « Toutes les deux, madame, et après avoir terminé leur ouvrage, elles sont revenues il y a plus d'une demi-heure. Ne s'est-il rien passé d'extraordinaire pendant qu'elles y étaient ? Rien que je sache, madame. » Après un moment de réflexion, je questionnai de nouveau l'aubergiste. « Avez-vous vu quelqu'un passer par ici, tantôt ? » ?»« Oui, madame, deux étrangers en voiture. Ils ont passé devant ma porte il y a près d'une heure. » « Où allaient-ils ? » Ils semblaient venir de Brighton et se diriger vers les sables. « Les avez-vous examinés ?»« Non, madame, j'étais occupée à ce moment-là. » Un soupçon affreux me vint à l'esprit. Ces deux hommes pouvaient bien être ceux que j'avais déjà vus rôder autour des sables. Je ne pus chasser cette crainte de mon esprit et je gardai le silence jusqu'à ce que nous fûmes arrivés à notre destination. Tout était calme, à l'exception des traces des roues d'une voiture sur le gazon devant les sables. L'aubergiste en fit le premier la remarque en ajoutant qu'une voiture avait dû s'arrêter devant la maison. M. Finch, auquel il s'adressait, eut une nouvelle extinction de voix. Tout ce qu'il put articuler, et encore avec bien de la peine, en approchant de la maison calme et solitaire, ce fut une recommandation d'être prudent. L'aubergiste me précédait, il arriva le premier devant la porte. Le pasteur nous suivait à une certaine distance, et se réservant toutes les dunes pour fuir en cas de danger, il nous servait d'arrière-garde. Gauzerige frappa et appela Dubourg par son nom. Pas de réponse, rien qu'un silence lugubre. Ne pouvant plus y tenir, j'écartai l'aubergiste et tournai le loquet de la porte qui n'était pas fermée à clef. « Permettez, madame, c'est à moi d'entrer le premier, » dit Gauzerige. Il entra et je le suivis de près. Nous appelâmes de nouveau sans recevoir aucune réponse. Il n'y avait personne dans la petite salle ni dans la salle à manger avec laquelle elle communiquait. Voulant pénétrer dans la pièce qu'Oscar appelait son atelier, nous trouvâmes la porte fermée à clef. Nous nous mîmes à frapper et à appeler encore, mais rien ne nous répondit. C'était toujours le même silence. Ayant tâté la serrure, je sentis que la clef n'était pas dedans et j'en profitai pour me baisser et regarder par le trou. Mais à peine l'eus-je fait que je me relevai, folle de terreur, en criant de toutes mes forces « Enfoncez la porte, il est là !» J'aperçois sa main sur le plancher. L'aubergiste n'était, comme le pasteur, qu'un homme de petite taille, et la porte était, comme tout ce qui se trouvait au sable, massivement construite. Nous ne pouvions, même à nous trois, l'enfoncer sans outil. Devant cet obstacle, M. Finch montra enfin qu'il pouvait être utile à quelque chose. « Attendez, mes amis, attendez !» Nous pouvons entrer, si la porte du jardin est ouverte, par la fenêtre qui donne sur le derrière de la maison. Ni l'aubergiste ni moi n'avions songé à cela. Nous courûmes aussitôt derrière la maison, en suivant les traces des roues qui allaient aussi dans cette direction. La porte était toute grande ouverte. Traverser le jardin, ouvrir la fenêtre qui donnait à ras de sol et pénétrer dans l'atelier fut l'affaire d'un instant. Il était bien là, notre pauvre Oscar, si doux et si inoffensif. Il gisait dans une mare de sang. Un seul coup donné sur la tempe l'avait, selon toute apparence, étendu à terre, la tête ouverte. Je ne me connaissais pas assez en chirurgie pour dire si le crâne avait été fendu par le même coup, quoique j'eusse, en servant la sainte cause de la liberté avec le docteur Pratolung, acquis une certaine habileté à panser les blessures. Il y avait dans la maison abondance d'eau fraîche, de vinaigre et de linge pour faire des compresses. J'envoyai Gauzerige, qui venait de trouver la clé de l'atelier dans un coin, chercher l'eau et le vinaigre, tandis que je courais, de mon côté, prendre quelques mouchoirs dans la chambre à coucher. J'eus bientôt appliqué une compresse sur la blessure et je me mis à bassiner le visage d'Oscar, qui restait sans mouvement, mais qui respirait encore. Monsieur Finch, incapable de nous rendre le moindre service, se mit à tâter le pouls du blessé, comme si, en pareille circonstance, c'était ce qu'il y avait de plus urgent et même de méritoire à accomplir. Il semblait dire « Il n'y a que moi qui puisse remplir dignement ce devoir. »« Quel bonheur, s'écriait-il, que je me sois trouvé au presbytère. Je me demande ce que vous auriez fait sans moi. » Le premier pansement fait, il fallait, en attendant l'arrivée du médecin, transporter Oscar sur son lit. Gouzerige s'offrit pour trouver un cheval et aller chercher le médecin, en ajoutant qu'il allait nous envoyer sa femme et son beau-frère pour nous aider. Il nous restait à nous débarrasser de la présence de M. Finch. La crainte de se retrouver nez à nez avec des voleurs s'étant dissipée, la grosse voix du petit homme résonnait dans toute la maison, comme s'il y eût eu une machine à vapeur dans les environs. J'eus une heureuse inspiration, tandis qu'accroupi, je tenais la tête d'Oscar sur mes genoux. M. Finch regardait partout et voyait si la caisse aux métaux n'a pas disparu. Mais le recteur ne goûtait guère l'idée de recevoir des ordres comme un simple mortel. « Veuillez vous calmer, Madame Pratolungo, me dit-il. Pas de nerfs, s'il vous plaît. L'affaire est entre mes mains et il est parfaitement inutile de me dire de chercher la caisse. » En effet, c'est inutile, car je sais d'avance qu'elle n'y est plus. Cette réponse eut l'effet que je désirais. M. Finch se mit à fureter de droite et de gauche, mais il ne put retrouver aucune trace de la caisse. Tous mes doutes se dissipèrent. Les deux bandits que j'avais surpris rôdant près des sables s'étaient chargés de réaliser d'une manière terrible mes sinistres prédictions. Madame Gouzerige et son frère venaient d'arriver. Ils nous aidèrent à transporter Oscar et à le coucher sur son lit après que nous eûmes pris la précaution de lui enlever sa cravate et de lui dégager le cou pour bien l'exposer à l'air qui soufflait par la fenêtre ouverte. Il ne semblait pas prêt à sortir de son évanouissement. Son pouls battait cependant, quoique faiblement, et aucune aggravation n'était survenue dans son état. Nous ne pouvions nous attendre à voir le docteur avant une heure au moins. Je compris combien il était nécessaire de profiter de cet intervalle pour retourner au presbytère et, prenant toutes mes précautions, annoncer à Lucile la triste nouvelle qui pouvait s'ébruiter et lui arriver d'une manière dangereuse par les domestiques. Lorsque je me levai pour partir, M. Finch s'excusa, à mon grand soulagement, de ne pouvoir m'accompagner. Il venait de s'apercevoir à l'instant qu'il incombait à sa dignité d'aller donner aux autorités les premiers renseignements sur le crime commis au sable. Il alla trouver le magistrat le plus proche, tandis que, confiant Oscar aux soins de Mme Coudridge et de son frère, je reprenais le chemin du presbytère. M. Finch me rappela en partant que, tout déplorable que fût l'accident, il y avait quelque chose de bienheureux, c'était qu'il se fût trouvé à la maison. « Quelle chance vous avez eue, Madame Pratolungo !» s'écria-t-il. « Qu'auriez-vous fait sans moi ?